19h sur France Inter. Le journal, bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Jean-Jacques Benex, l'homme d'un film culte, 37-2 le matin, mais aussi d'échecs, cuisant, passionné, atypique. Le réalisateur est mort aujourd'hui à 75 ans, on revient sur sa carrière dans un instant. Un vaccin autorisé, un autre réhabilité. Novavax et Janssen sont-elles les nouvelles armes pour convaincre les réticents à ARN messager? Dans l'actualité, encore une très chère journée pour EDF, contraint de vendre à perte à ses concurrents pour préserver la facture des Français. Une arrestation près de Besançon d'un homme que l'on soupçonne d'être un gros trafiquant de drogue recherché depuis 20 ans. Et puis dans les coulisses d'une exposition sur les arts de l'islam pour dépasser les préjugés à Mantes-la-Jolie. Et au téléphone sonne Claire.
Passe vaccinale, pourquoi tant de haine? De plus en plus d'élus et de médecins sont pris pour cible, victimes de menaces, parfois même d'agressions. La crise sanitaire a accentué le phénomène. 300 plaintes déposées depuis le mois de juillet, puis la mise en place du passe sanitaire, c'est encore pire depuis le pass vaccinal, on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est donc un nom associé à la chaleur d'un 37-2 le matin. Jean-Jacques Benex, le réalisateur du film qui a révélé Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle, est mort aujourd'hui à 75 ans. Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Jacques Benex, une carrière du début à la fin qui a divisé la critique.
C'est vrai qu'il aura tout connu, hein, l'échec et la gloire. Parfois les deux en même temps. Lorsqu'en 82, Jean-Jacques Benex reçoit 4 Césars pour son premier film Diva, le public est conquis, mais la critique vend debout et lui reproche déjà ce qui fera sa marque de fabrique, ce cinéma du look et son esthétique baroque, inspiré de l'univers de la pub, des vidéoclips, jugé sans doute un peu trop avant-garde pour l'époque. Auteur en 20 ans de 6 longs métrages, imperméable aux appels d'Hollywood qui le voulait pour Le Nom de la Rose ou Alien 3, Jean-Jacques Benex avait sorti son dernier film, Mortel Transfer, en 2001. Un cinéaste talentueux mais incompris, comme il l'avait exprimé il y a 2 ans au micro d'Élodie Suéga. Good France Info.
Ça, c'est un drôle de message contradictoire parce que je réussis un exploit et en même temps, je me prends une grande baffe dans la gueule. Ben voilà, ça a été ça tout le temps, ma vie au cinéma. Je fais La Lune dans le caniveau, qui est un film que j'ai fait dans un état second. Un film qui est un véritable accomplissement. J'y mets tout, tout, tout. Et à Cannes, c'est une avalanche de haine.
Alors, ces dernières années, Jean-Jacques Benex s'était fait plus discret, délaissant le cinéma et toutes les histoires dont il avait acquis les droits, préférant mettre en scène Kiki de Montparnasse au théâtre et sortir son premier roman, Toboggan.
Alors, il n'empêche que pour tous ceux qui ont eu 20 ans dans les années 80, il reste un film générationnel.
Oui, ouais, 37-2 le matin, Jean-Jacques Benex, maudit, incompris, mais tellement culte avec ce film, qui a révélé en 86 Béatrice Dalle, inoubliable dans le rôle de Betty, aux côtés de Jean-Hugues Anglade, avec son grand sourire, sa combinaison en jean pleine de peinture.
Elle m'a fait penser à une fleur étrange, munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance.
Histoire d'amour et de folie sublimée par la musique de Gabriel Yared, plébiscité jusqu'aux Oscars.
Merci beaucoup Corinne Pellissier. Jean-Jacques Benex avait 75 ans. Retrouvez sa vie, sa carrière en détail aussi sur franceinter.fr.
C'est une journée qui a donc coûté cher à EDF.
L'électricien mis à contribution est fortement pour préserver la facture des Français. Il va devoir vendre l'électricité à perte à ses concurrents parce que le gouvernement, pour que le gouvernement honore sa promesse et réussisse à limiter la hausse des tarifs à 4% au lieu de 35% au 1er février. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
La douloureuse est donc pour EDF.
Oui, la facture s'annonce salée, autour de 8 milliards d'euros car l'électricien a déjà vendu une bonne partie de sa production 2022. Pour tenir la promesse du gouvernement, il va donc devoir acheter 20 TWh de courant sur les marchés où les prix sont très élevés, environ 200 euros le mégawattheure de l'électricité qu'il revendra à ses concurrents, 4 fois moins cher. Le prix de l'ARENH, l'électricité à tarif fixe, s'élève à 46 euros. Clairement, l'opération n'est pas bonne pour EDF, d'autant que les arrêts de réacteurs s'accumulent. L'électricien produit historiquement peu, ce qui l'empêche de profiter à plein des prix élevés du moment. Ce cocktail détonnant a fait dévisser son cours de bourse, moins 15% à la clôture. Autrement dit, plus de 5 milliards d'euros de valorisation boursière partie en fumée en une journée. Pour certains analystes, on va tout droit vers un renflouement par l'État. L'État qui, de son côté, doit faire l'impasse sur 8 milliards d'euros de recettes, le montant de la principale taxe sur l'électricité à laquelle il renonce pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs d'électricité.
Et c'est une situation qui inquiète en interne les salariés d'EDF. Des soldes permanents aux concurrents, ça fait gonfler la dette d'une entreprise qui emploie tout de même plus de 160 000 personnes. Le secrétaire CGT d'EDF, Philippe Page-Lemerour, que vous avez interrogé, Delphine, n'est pas tranquille.
On a affaire à une nouvelle spoliation d'EDF. Il n'y a aucun autre exemple marchand qui existe où une entreprise fabrique un produit pour le vendre à pas cher à sa propre concurrence. Donc on marche sur la tête. On parle d'un coût de 8 milliards d'euros par an pour EDF, donc c'est juste la moitié de ses investissements. On met EDF dans le rouge. C'est EDF et son personnel qui portent seul le risque industriel. Par exemple, en ce moment, on a plus de réacteurs à l'arrêt que prévu. Donc pendant que les équipes d'EDF sont en train de bosser dessus pour les remettre sur le réseau, les autres équipes qui ont les tranches, les réacteurs qui sont sur le réseau, elles travaillent pour la concurrence. Donc c'est le service public esclave du privé et de sa propre concurrence.
L'électricité, le gaz, le carburant, l'énergie a largement contribué à la hausse de l'inflation en 2021, plus 1,6% sur l'année. Les banques centrales européennes et américaines parient qu'elle baissera dans le courant de cette année, mais elle est particulière en France, année électorale. Le pouvoir d'achat est un sujet de campagne. Deuxième annonce donc aujourd'hui du ministre de l'économie après l'électricité. Le taux du livret A va être relevé pour la première fois en 10 ans de 0,5 à 1%. Bruno Le Maire sur TF1.
Le taux du livret A va doubler au 1er février. Même chose pour le livret de développement durable et solidaire, 1%. Et le livret d'épargne populaire, c'est plus que un doublement. Il va passer de 1 à 2,2% parce que le livret d'épargne populaire est directement indexé sur l'inflation. Tous les Français qui gagnent moins de 20 000 euros par an ont droit au livret d'épargne populaire. C'est une façon de protéger le pouvoir d'achat des Français et de tenir compte de cette inflation qui, je sais, les inquiète beaucoup.
Le livret d'épargne populaire dont 15 millions de Français pourraient potentiellement bénéficier. Ils ne sont que 7 millions à en avoir ouvert un.
Et voici un vaccin qui pourrait séduire les non-vaccinés réticents à l'ARN messager.
Novavax, cinquième vaccin anti-Covid autorisé en France aujourd'hui. Anne Orenstein, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
C'est un vaccin basé sur une technologie plus classique, hein, pas d'ARN messager. Tout comme le vaccin Janssen que la Haute Autorité de Santé réhabilite aussi ce soir.
Oui, Janssen, on l'avait un peu oublié, ce vaccin à vecteur viral qui utilise une version atténuée du virus. Janssen, il était administré d'abord une seule dose. C'est d'ailleurs ce qui faisait son intérêt. Puis avec une deuxième dose obligatoirement en ARN messager. Mais là, de nouvelles études montrent qu'il est vraiment efficace avec deux doses et même contre Omicron. L'efficacité atteint 85% selon une étude faite en Afrique du Sud où Omicron a été détecté en novembre. Donc Johnson est désormais autorisé en deux doses et même en rappel en France, mais seulement pour les plus de 55 ans. La deuxième autorisation, elle concerne Novavax, un vaccin américain sous-unitaire, c'est-à-dire avec des nanoparticules du virus et un adjuvant pour apprendre à notre système immunitaire à réagir. Pourquoi ces autorisations maintenant? Eh bien parce que pour convaincre et rassurer, il faut renforcer l'arsenal, concède le professeur Elisabeth Bouvet. C'est la présidente de la commission technique vaccination à la HAS.
Pour nous, et ça reste toujours le maître mot, hein, c'est que plus il y a de gens vaccinés, surtout parmi les personnes à risque, moins on a de formes graves, moins on a d'hospitalisations, moins on a de décès liés au Covid. Et donc vraiment, là, il reste encore un certain nombre de gens qui ne sont toujours pas vaccinés. Et donc si on peut apporter une solution pour ces personnes, c'est toujours bon à prendre.
Pour se vacciner avec Novavax, il faudra attendre les premières livraisons. 1 million de doses début février. Janssen, lui, est déjà disponible. Plus de 800 000 doses dorment dans les stocks français.
Petit rappel, demain, il faut avoir fait son rappel pour conserver son pass sanitaire. Si vous avez fait la deuxième dose il y a plus de 7 mois, 600 000 personnes pourraient voir leur pass désactivé. Les infos du jour, c'est aussi le masque qui n'est plus obligatoire partout, dehors, à Paris, dans les Yvelines et en Loire-Atlantique. Le feuilleton Djokovic en Italie, visa annulé pour la deuxième fois ce matin. Et la Cour fédérale australienne se penche sur le cas du numéro 1 mondial de tennis ce soir, qui est entré sur le territoire avec une exemption vaccinale litigieuse. L'Open commence lundi prochain. Et puis, quatre candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Philippe Poutou, appellent à la levée des brevets et à l'accès aux vaccins pour les pays les plus pauvres. Des pays qui ont rejeté plus de 100 millions de doses en décembre parce que presque périmés, impossible de proposer aux populations en temps voulu. La campagne présidentielle passée par la Bretagne aujourd'hui pour Marine Le Pen. Saint-Malo cet après-midi, Erquy ce matin, où elle était venue parler éolienne et électricité. Mais sur sa route, la candidate du Rassemblement National a été prise à partie par un groupe d'une quinzaine d'éleveurs de porcs. Il avait un message à faire passer. Reportage signé Élodie Forêt.
Face à Marine Le Pen, un cri du cœur.
Nous, notre frustration, il y a eu le Covid, là. On est sur 2 ans de Covid. Nous, on a continué à bosser, hein, vous pourrez demander à tout le monde. On a nourri tout le monde. Et là, on a le retour de bâton, mais c'est pire qu'avant.
Porte-voix de ses camarades, Jérémy Labbé, éleveur à plus rien et président des jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor. Il raconte les prix trop bas, les charges qui augmentent et la guerre contre la grande distribution.
Monsieur Leclerc, là, il nous provoque avec sa petite baguette à 29 centimes. Enfin, franchement, c'est la honte. Il va faire quoi du cochon? Il va le mettre à 50 centimes aussi?
Ponctuellement, il pourrait le faire. Le seul moyen, c'est qu'à un moment donné, il y ait une fixation des prix qui soit tripartite. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et fixer à un moment donné un seuil minimum du prix qui permette aux producteurs de continuer à vivre et ne soient pas obligés de vendre à perte.
Marine Le Pen, poursuit par le patriotisme, promet des restaurations collectives qui n'achèteraient que français. Les éleveurs, eux, ont une requête, que l'on parle enfin d'agriculture dans la campagne.
Ben là, quand je vous vois la prochaine fois à la télé avec vos petits collègues concurrents en débat, vous parlerez agriculture?
Mais bien
et à
sûr.
Fond. On ne peut pas parler que Covid. Faites le boulot. Hein.
On fait le boulot, puisqu'on peut.
Et Marine Le Pen, de retourner la responsabilité aux éleveurs. N'attendez pas l'élection, faites-la.
Une élection dans 86 jours maintenant.
Voilà, vous comptez bien. C'est peut-être un très gros poisson qui est tombé dans les filets des douaniers de Besançon.
Un homme arrêté sur une aire d'autoroute de l'A36 dans le Doubs, près de Besançon. C'était le 1er janvier, on l'apprend ce soir. Un homme que l'on soupçonne d'être un trafiquant de drogue recherché depuis 20 ans, d'être le frère de Sofiane Hamblie, arrêté lui aussi en octobre après des mois de cavale. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et une interpellation intervenue presque par hasard.
Oui, tout part d'un simple contrôle le 1er janvier sur cette aire d'autoroute du Doubs. Les douaniers s'intéressent à un automobiliste dans la voiture duquel ils découvrent 10 700 euros en liquide. L'homme leur présente des papiers d'identité suisses. Vérification est faite auprès des autorités helvètes. Ces documents sont un défaut. L'automobiliste refuse de donner sa vraie identité, mais sa photo est soumise à des enquêteurs qui en sont persuadés. Il s'agit d'un homme condamné par défaut à Mulhouse en 2007 à 8 ans de prison pour trafic de drogue. Selon toute vraisemblance, dit le procureur de Besançon, un suspect, aujourd'hui âgé de 43 ans, en cavale depuis 20 ans, frère du baron de la drogue Sofiane Hamblie, lui-même effectivement interpellé en octobre. Alors encore un peu de prudence du côté de la police et de la justice, mais une prudence qui tient plus de la procédure. Dans un dossier, un enquêteur qui reconnaît quelqu'un, même s'il est sûr de lui, ça ne suffit pas. Il faut des éléments de preuve formels pour acter cette identité. Le parquet de Mulhouse devra ensuite notifier son mandat d'arrêt à ce suspect.
Ariane Grissel, au procès des attentats du 13 novembre, la semaine a été consacrée à l'interrogatoire des accusés. Un troisième homme interrogé aujourd'hui, Adèle Haddadi, 34 ans. Sophie Parmentier, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes au palais de justice sur l'île de la Cité. La justice pense qu'il devait participer aux attaques à Paris et Saint-Denis.
Oui, et dans son box, Adèle Haddadi, petits yeux ronds derrière de gros verres de lunettes, chemise moulante à petits motifs géométriques, tente de parler français avec un très fort accent. Mais le vocabulaire devient vite limité pour cet accusé algérien. Alors le président de la cour lui conseille de parler arabe avec son interprète pour expliquer plus précisément son départ vers la Syrie en février 2015, sa vie dans les rangs de Daesh, puis son retour en Europe par la route des migrants jusqu'à son interpellation en Autriche un mois après les attentats du 13 novembre. Et Adèle Haddadi se se met à raconter qu'il avait quitté Alger pour faire de l'humanitaire à Raqqa. De l'humanitaire, s'étrangle le président. On ne comprend pas bien alors votre enseignement militaire en Syrie. Adel Haddadi concède. Je savais bien qu'il ne s'agissait pas de donner des bonbons à des gamins, mais il jure qu'à part une semaine d'entraînement au combat, il n'est resté qu'en cuisine. Et cette photo avec cette arme, l'interroge la cour. Ah, c'était pas la mienne. On me l'avait prêtée, tante Haddadi. Et si vous étiez en cuisine, pourquoi on vous a proposé d'être kamikaze en Europe? Bah, j'étais quelqu'un de serviable, lâche Adel Haddadi, qui croit avoir réponse à tout. Bah, être serviable et aller jusqu'à commettre un attentat, c'est quand même pas tout à fait pareil, gronde le président Périès, qui suspend l'audience jusqu'à mardi, avec ce soir dans le box, au moins un accusé fiévreux qui va rapidement être testé.
Sophie Parmentier avec Éric Audra est retrouvée, comme chaque jour, un compte-rendu d'audience détaillé sur notre site franceinter.fr, signé ce soir Charlotte Piret. À l'étranger, on se demande si les Russes sont derrière les cyberattaques qui ont visé l'Ukraine aujourd'hui, les principaux sites gouvernementaux bloqués. Le chef de la diplomatie européenne a convoqué une réunion d'urgence alors qu'au même moment, Moscou annonçait avoir démantelé un groupe de hackers spécialisé dans les rançongiciels. Ces attaques dans lesquelles les pirates cryptent les données d'entreprises, d'administrations, puis demandent de l'argent pour remettre les choses en ordre. Les États-Unis avaient tapé du poing sur la table à plusieurs reprises après l'attaque de plusieurs grandes entreprises américaines. Correspondance à Moscou, signé Sylvain Tronchet.
L'opération de ce matin se voulait spectaculaire. Le FSB a diffusé des vidéos de ses agents qui fracassent les portes et cueillent au saut du lit 14 membres présumés du groupe Reveal. On y voit des piles de billets. Le service de sécurité annonce avoir saisi près de 5 millions d'euros et 20 voitures de luxe. Reveal était à l'origine d'une des plus grandes attaques de l'histoire par rançongiciel en juillet dernier contre la société informatique américaine Kaseya. Le groupe avait pu s'introduire chez des centaines de ses clients et réclamer des rançons. On ne sait pas combien ont payé, mais ces attaques peuvent être très lucratives. Selon le Trésor américain, 590 millions de dollars de rançon ont été versés rien qu'aux États-Unis au premier semestre 2021. Malgré tout, d'autres groupes continuent d'opérer en Russie, avec parfois des complicités haut placées. En septembre dernier, le patron d'une des plus grandes sociétés de cybersécurité russe, Ilya Sachkov, a été emprisonné pour trahison. Quelques semaines plus tôt, il avait, devant le Premier ministre, dénoncé les liens de certains pirates informatiques avec les services secrets. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'arrestation du chef de l'un des principaux groupes de l'extrême droite américaine dans l'enquête sur l'assaut du Capitole, inculpé pour sédition. Et puis au Royaume-Uni, chaque jour est plus désastreux pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique contraint aujourd'hui de s'excuser auprès de la reine Elisabeth II pour une fête organisée à Downing Street la veille des funérailles de son époux, le prince Philippe.
Que diriez-vous, Hélène, de partir à présent dans les coulisses d'une exposition qui se démultiplie?
C'est une bonne idée, ça s'appelle Les Arts de l'Islam. 18 expositions en réalité dans 18 villes de France. C'est le Louvre et les musées de toutes les régions qui s'associent pour faire connaître les arts de la civilisation islamique au-delà de la religion. Figeac, Limoges, Marseille et Mantes-la-Jolie, où nous emmène Isabelle Pasquier.
Objectif de cette manifestation, lutter contre les préjugés, l'intolérance et le fanatisme avec une arme, la culture, la connaissance. Les Arts de l'Islam proposent aux jeunes de découvrir la civilisation islamique à travers des chefs-d'œuvre profanes et sacrés. Dans chaque ville, 10 œuvres sont exposées. Au musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie, on retrouve Émilie Sarah, Maïsen, Maïssa et Ahmed du lycée Saint-Exupéry.
Là, on est devant une pierre en cristal de roche qui a été gravée.
Personnellement, je trouve que chaque religion devrait être valorisée et respectée, donc devrait être plus connue.
C'est vrai qu'on entend souvent parler des religions et tout, mais on ne voit pas forcément leurs arts, leurs créations, les tapisseries, les talismans, les peintures, tout ça. On n'entend pas forcément parler.
C'est important de voir le côté artistique des choses, voir la beauté des choses et surtout de cette culture qui est plutôt... Enfin, il y a une image plus négative.
Qu'on soit musulman ou pas, dans tous les cas, ça pourrait augmenter nos connaissances. Au moins, on pourra élargir les discussions, mieux se comprendre.
Parmi les chefs-d'œuvre exposés à Toulouse, un astrolabe du XIIIe siècle, à Dijon, une lampe d'une mosquée de Jérusalem du XIe siècle, et dans chaque exposition, des œuvres d'artistes contemporains.
18 expositions, donc, dans 18 villes jusqu'au 27 mars, ce sera le sujet des coulisses demain matin sur France Inter à 6h53. Notez encore cet épisode de pollution aux particules Dauphine demain à Lyon. La préfecture du Rhône met en place la circulation différenciée dans la ville et ses alentours. Seuls les véhicules qui ont une vignette critère de classe 0, 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler. Et puis, on a aussi appris la mort aujourd'hui de Ricardo Bofi, l'architecte espagnol mondialement connu. Il avait 82 ans. On lui doit notamment le quartier Antigone à Montpellier, ainsi que la place de la Catalogne à Paris, derrière la gare Montparnasse. Un grand merci enfin à l'équipe qui était aux manettes des journaux cette semaine. Fabrice Desmaz, Henri Bérec et Philippe Duclos.
Ouais, ça, c'est du lourd. Et puis alors, avec vous, en plus, c'est vraiment la Dream Team. On prend des nouvelles du temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Un temps souvent ensoleillé demain.
Oui, un petit peu de patience quand même du nord-ouest vers le bassin parisien. Le nord et le grand est, il y aura pas mal de nuages bas, des brouillards givrants. Ça s'arrangera l'après-midi, le soleil reprendra sa place. Seule Bretagne, Vendée et Cotentin garderont un ciel encombré. Plus au sud, le soleil s'imposera plus rapidement. Juste quelques brouillards givrants vers le sud-ouest et du Lyonnais au Val-de-Saône, mais on n'en parlera plus l'après-midi.
Et il fera froid.
De nombreuses gelées le matin, souvent comprises entre moins 5 et 0 degrés. Et l'après-midi, 2 petits degrés à Strasbourg, 4 à Lille, 5 à Lyon, 6 degrés à Paris, Caen ou Châteauroux, 10 du côté de Brest et d'Aurillac, 11 à Bordeaux, à Marseille, jusqu'à 15 à Bastia. Dimanche, on aura à peu près le même type de temps avec des gelées le matin. Le soleil s'installera vite au sud. En revanche, au nord, ça restera souvent encombré. Quelques gouttes seront possibles sur les Hauts-de-France, voire quelques flocons sur les Ardennes en soirée.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.